Alors, le terme de radio libre désigne en fait toutes les radios qui ont émergé dans les années 70 en protestation contre le monopole d'État de l'époque sur la radio. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 1945, il y a eu un monopole d'État. Donc, qui voulait écouter la radio en France ne pouvait écouter que Radio France ou deux ou trois radios périphériques qui étaient Europe 1, Radio Télé Luxembourg, puis plus tard RMC, Radio Monte-Carlo. Donc dans les années 70, on a eu ce mouvement de radio dite libre, parce que pas dépendante d'une de ces radios que j'ai citées, Radio France ou les radios périphériques. Et ce mouvement donc a continué jusqu'à la fin des années 70, dans un véritable combat pour l'éclatement du monopole. Donc voilà, on peut citer Radio Verte, Radio Lorraine Cœur d'Acier, etc. Et en fait, moi, j'essaye de ne plus parler de radio libre après 1981. Parce qu'après 1981, le vocable change, en fait. En 1981, Mitterrand arrive au pouvoir et fait éclater le monopole. Et à partir de ce moment-là, comme on légalise les nouvelles radios libres, on ne peut plus les appeler libres. Parce que les appeler libres, ça sous-entend que les grandes radios qu'elles contestent ne sont pas libres. Et comme on ne veut vexer personne à l'époque, eh bien, on emploie le terme de radio locale privée. Et on dit radio locale privée parce que ces radios ont une puissance d'émission limitée, c'est-à-dire qu'elles peuvent émettre théoriquement et légalement à l'échelle d'une ville seulement et non pas à l'échelle d'un bassin d'émission comme RMC avec le Sud, Europe 1 avec le Nord-Est, etc., etc.
Donc les radios libres, c'est les radios pirates, c'est ça?
Voilà, on dit radio libre, radio pirate, avec toute cette ambiance de bricolage des émetteurs. Toute cette ambiance de gens qui montent une radio et qui savent très bien qu'ils vont très vite avoir les flics au basque, très vite être brouillés aussi, parce que on évite d'envoyer la police. Ça fait trop de bruit en fait. Donc on brouille. Le gouvernement brouille les émissions de sa radio pirate. Et voilà, donc les radios locales privées sont les véritables héritières de ces radios pirates et vont tabler sur cet héritage pirate un petit peu alternatif.
Les fondateurs de ces radios-là, c'est les fondateurs aussi des radios pirates. Ils ont un peu pris le courant de la légalisation.
Voilà, alors ceux qui avaient fondé des radios pirates à la fin des années 70 sont très contents que le monopole éclate et essayent d'institutionnaliser les radios qu'ils ont créées et de les professionnaliser pour certains. D'autres arrivent juste à ce moment-là et profitent de cet éclatement du monopole pour créer des nouvelles radios. Avec des projets parfois totalement différents de ceux des radios alternatives des années 70, beaucoup plus, dans un sens beaucoup plus libéral et commercial. On a par exemple Énergie, voilà, qui arrive, un certain monsieur Baudecroux, qui fait partie d'une association de libération des ondes, voilà, et qui monte sa propre radio à Paris. Et qui, lui, a un capital important et ne va pas hésiter à faire de la publicité alors que c'est interdit. Voilà, des projets totalement différents, des projets quasiment anarchistes de certains des radiolibristes des débuts. Donc on a ces deux mouvements-là qui sont parfois imbriqués, c'est très compliqué. On a des gens qui naviguent à travers les radios dont on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent en faire. Et on a des radios qui, du jour au lendemain, passent d'une radio très libertaire, très démocratique dans la prise de décision avec des AG et tout ça, à une radio très commerciale, commandée par une seule personne, voire un petit conseil de gens, avec des intérêts commerciaux qui n'étaient pas ceux des radios libres, quoi.
Ces radios-là, au début, étaient plutôt politisées, du coup.
Oui, énormément. Même les premières radios commerciales de 81 ont des liens avec les politiques. Toutes ces radios ont des liens avec les politiques. La politisation, à l'époque, je pense qu'on a du mal à se figurer ce que c'était. Parce qu'aujourd'hui, on écoute la radio et on aurait bien du mal à savoir quelle radio est de gauche, quelle radio est de droite. À l'époque, on sait très bien. On le sait très bien, les gens s'invectivent parfois à l'antenne, se font invectiver par les auditeurs, etc. Et si vous voulez, leur identité à ces radios-là est vraiment appuyée sur un engagement politique. Ce qu'on a vraiment du mal à concevoir aujourd'hui, quoi. Alors au début, donc la fin des années 70, puis 80, 82, ça parle énormément à la radio. On parle parce qu'on est très content de cette libération de la parole. Il faut savoir que les années 70, il y a vraiment une chape de plomb, voilà, politique sur les médias en France, et cet éclatement de la prise de parole est vécu comme une bouffée d'air frais. Donc tout le monde vient faire une petite émission sur un sujet qui lui plaît. Il peut très bien être politique, hein, bien sûr, il y en a beaucoup, mais ça peut très bien être une émission sur le cinéma, sur la voile, sur le jazz, sur la cuisine, etc., etc. On parle. Ensuite, il y a un deuxième mouvement qui est celui de la musique. Petit à petit, ces grilles de programmes qui sont remplies par des gens qui parlent vont progressivement être remplacées par des émissions beaucoup plus musicales. Et là, seconde bouffée d'air frais, puisqu'il y a une autre chape de plomb sur les médias en France, sur la radio en France, en fait, dans les années 70, c'est que qui veut écouter de la musique écoute, en gros, voilà, le top 50 d'Europe 1, quoi. Niveau diversité, c'est sympa, mais on a vu mieux. Donc arrivent toutes ces radios qui vont chercher des vinyles en Angleterre, qui essayent de diversifier, qui vont chez les disquaires et qui sont alimentées par les maisons de disques, qui trouvent un intérêt formidable dans toute cette affaire. En fait, on a des petites radios ici à Brest comme Radio Neptune qui se retrouvent avec des cargaisons entières le lundi matin de vinyles à trier, à passer à l'antenne et à dire à quelle heure ils la passent et si à cette heure-là ils sont beaucoup écoutés, etc., si le morceau est apprécié. Voilà, les maisons de disques trouvent un intérêt formidable là-dedans. Donc oui, libération de la parole, mais aussi libération de la musique.
Et comment elles ont fait pour se défendre, ces radios privées locales, contre les radios nationales ?
Alors, contre les radios nationales de type France Inter et Europe 1 et tout ça, c'est très facile de défendre son bout de gras, puisque tout ce qu'on apporte est nouveau. C'est-à-dire, on apporte des nouvelles musiques, on apporte des nouvelles manières de s'exprimer, on donne la parole, etc., etc. Tout ça, c'est totalement absent, pendant un temps encore, de France Inter et Europe 1. Après, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de ces radios privées locales vont devenir elles-mêmes des radios nationales, en rachetant des fréquences, parfois illégalement, à travers toute la France. Et là, la résistance commence à être véritablement compliquée pour les petites radios libres qui se sont montées, et associatives et à but non lucratif, qui se sont montées après l'éclatement du monopole. Parce que là, on a des radios qui sont issues du mouvement du radio libre, qui ont des capitaux faramineux grâce à la publicité qu'ils passent à l'antenne illégalement également, qui monopolisent vraiment l'antenne en rachetant des fréquences de radios libres à travers toute la France. À partir de ce moment-là, résister financièrement à ça, ça devient très très compliqué. Là, on arrive dans les années 86-88. Ouais. Il y a un mouvement de libéralisation, véritablement. C'est terrible de voir ça, quoi. Libéralisation qui s'accompagne avec un formatage de la programmation de toutes les radios qui sont rachetées, quoi. Donc, c'est un espèce de retour en arrière. On entend bientôt la même chose sur toutes les radios, presque toutes les radios, à part les quelques survivantes du mouvement des radios libres.
Alors comment se sont mis en place ces radios privées locales à Brest ?
Ce qu'il se passe en fait à Brest en avril 81, c'est que des jeunes socialistes vont mettre en place une radio pirate qui s'appelle Radio Brest Atlantique pour faire un véritable coup de communication le jour de la venue de François Mitterrand à Brest en pleine campagne présidentielle. Voilà. Et ainsi avoir une visibilité nationale, donner une visibilité nationale aux radios libres et demander l'éclatement du monopole. Voilà, peut-être même, on espère, via la voix de François Mitterrand, à qui on ne laissera pas le choix sur le moment. Donc, on monte la radio la veille de l'arrivée de François Mitterrand. Donc, ce sont des jeunes socialistes, effectivement, bien aidés par la mairie de l'époque, mais il y a également des militants qui ne sont pas du tout socialistes. Il y a des féministes, des bretonnants, des écologistes, etc. Donc, on monte cette radio pirate et elle est saisie dès le premier matin par la police. Tout est saisi, sauf l'émetteur, qu'il fallait surtout pas perdre, sinon on n'aurait pas pu continuer. Heureusement, l'émetteur, on le cache dans une poubelle que les policiers n'arrivent pas à trouver. Et le lendemain, pour la venue de François Mitterrand, la radio réémet. On a trouvé une platine dans la nuit qu'on a piquée à une boîte de nuit. On a trouvé des vinyles, on a trouvé des micros. On s'est débrouillé. Et le jour de la venue de François Mitterrand à Brest, Francis Leblé, qui est le maire socialiste de l'époque, fait visiter les locaux de la mairie à François Mitterrand et le fait passer, en toute innocence bien sûr, dans le studio de Radio Brest Atlantique. À ce moment-là, un des jeunes radioteurs tombe sur François Mitterrand avec un micro et lui demande de s'exprimer sur le sujet des radios libres. Ce qu'il a fait avant ça, bien sûr, mais tout en laissant planer une espèce d'ambiguïté. On ne sait pas s'il va faire éclater le monopole, véritablement. Il laisse encore planer l'ambiguïté à ce moment-là. Mais voilà, il leur dit de continuer, que c'est bien, que leur combat est légitime puisque l'information est totalement gouvernementalisée. Et c'est la première fois qu'il parle en direct sur une radio pirate. Donc ça, c'est véritablement une première, pour le coup. En revanche, il n'annonce pas du tout qu'il va faire éclater le monopole s'il arrive au pouvoir un mois plus tard. Mais c'est quand même un fabuleux coup de théâtre, voilà, pour les radios libres de l'époque.
C'est surprenant ça quand même que la mairie de Brest, qui est censée représenter l'État, accueille la radio pirate.
Et oui, c'est surprenant et il y a différents courants aussi dans le Parti Socialiste. Il faut bien se mettre en tête cette idée. Et puis, bon, le maire est socialiste. Le pouvoir à l'époque n'est pas du tout socialiste, hein, c'est Giscard, donc on trouve là une aubaine véritablement de faire une formidable pub au Parti Socialiste, même si peut-être voilà, Francis Leblé et ses acolytes, ses adjoints, ne représentent pas le même courant du Parti Socialiste que François Mitterrand. Il y a plusieurs courants dans le Parti Socialiste, et celui de François Mitterrand à l'époque est très peu favorable à l'éclatement du monopole. On a peur en fait que plein de nouvelles radios de droite arrivent en France et mettent à mal le discours du Parti Socialiste.
Comment elle faisait pour se fournir un émetteur en platine pour diffuser ?
Des fonds privés, donc les petites économies des petites équipes. Parfois plus grosses économies, hein. Des fois il y a des projets montés bien, voilà, bien cadrés avec un financement. Mais dans le cas de certaines radios ici à Brest, voilà, on a envoyé deux des membres de l'équipe se fournir directement en Italie avec l'entreprise Italco, qui à l'époque fabrique les émetteurs de meilleure qualité. Donc voilà, on envoie des gens en Italie, parce qu'à l'époque aussi en Italie, il y a tout ce mouvement des radios libres, mais qui a une avance sur la France d'au moins 5 ans. En Italie, le monopole sur la radio a été déclaré anticonstitutionnel en 76. Donc il y a une floraison de radio qui a 5 ans d'avance sur la France. Et donc on va se fournir là-bas en matériel, effectivement. Les platines, après, comme je vous l'ai dit, voilà, quand on se les fait saisir, ça devient très compliqué. Parfois on a des partenariats avec les boîtes de nuit locales, on se débrouille comme ça, mais des fois quand le matériel est saisi, c'est la fin, quoi. C'est vraiment la fin.
Alors aujourd'hui, de ces radios privées locales que tu as étudiées, en tout cas, il reste Radio Neptune et Radio Mutine. Pourquoi ? Comment ça se fait que les autres ont disparu ?
Les autres ont disparu donc pour plusieurs raisons. Des raisons qui sont politiques et économiques. Politique d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, les radios sont très politisées à l'époque. Et donc, vous doutez bien que quand il y a une alternance politique dans une mairie, eh bien, les financements que apporter la mairie, par exemple socialiste, à une radio, sont coupés. C'est ce qui va arriver à Radio Brest Atlantique. Un maire de droite arrive en 83 et Radio Brest Atlantique est coupé de ses financements et ne survit pas à l'arrivée de la droite au pouvoir. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, économique, donc c'est ce qu'on a déjà un peu évoqué, c'est-à-dire l'arrivée de ces réseaux. Énergie rachète un nombre faramineux de fréquences à travers la France. Et dès que Énergie arrive dans une ville, elle caracole en tête des audiences. Donc, toutes les petites radios qui sont en queue de peloton et qui obtenaient jusque-là un tout petit peu de publicité, peut-être, n'obtiennent plus du tout de publicité parce que les publicitaires préfèrent voilà, tabler sur Énergie, bien entendu. Donc ça, ce sont des raisons économiques qui font que, par exemple, Radiogramme et Radio Paradis à Brest vont être achetés par des réseaux. En revanche, Radio Neptune et Radio Quartier Brest, qui est devenu ensuite Fréquence Mutine, survivent jusqu'à aujourd'hui. Pour Neptune, par exemple, il doit y avoir 3 animateurs. Et voilà, ils sont 6 à gérer cette radio. On est très loin des 100 animateurs en 83 qui font chacun une émission. Et c'est la pagaille monstre, quoi. Et bien sûr, voilà, il faut gérer tous ces gens-là.
Et les personnes que tu as interviewées, comment elles racontent cette époque de leur vie ? Est-ce qu'elles sont nostalgiques ?
Elles sont nostalgiques, oui, parce que c'est véritablement un épisode, oui, libérateur en fait. C'est vraiment, on se rend très peu compte de ça, hein. Mais c'est une libération de la parole, libération de la musique, Et puis c'est vraiment une époque où voilà, ils sont dans les radios sont politisées, ces gens-là ont un pouvoir d'action sur la scène politique locale que les radios ont perdu par la suite, et une diversité musicale que les radios ont perdu par la suite. Donc ces deux pertes font que, oui, les témoins sont nostalgiques, surtout quand ils écoutent la bande FM aujourd'hui, ça leur fait parfois de la peine. Et puis, voilà, pour certaines de ces radios, il y a un mode de narration qui est parfois épique. Oui, on s'est fait courir après par les flics, on s'est disputé entre copains, et puis voilà, il y a des émissions, enfin il y a des histoires rocambolesques, quoi. Ils aiment bien raconter ce genre d'histoires qui effectivement sont invraisemblables. On a du mal à imaginer voilà, que du matériel d'une radio soit volé par quelqu'un qu'on connaît qui va ensuite les vendre sur la foire Saint-Michel. On a du mal à croire que des équipes se séparent de radio pour soutenir différents candidats à la mairie de Brest, etc. Enfin, des fois, il y a des histoires phénoménales.
C'est quoi l'archive qui t'a le plus marqué, ou l'histoire qu'on t'a racontée qui t'a le plus marqué ?
Il y en a des tas. La saisie de RBA est véritablement un épisode, voilà, pour le coup, invraisemblable. Il y avait une belle histoire que m'avait racontée un témoin de Radio Neptune qui me dit que, voilà, à l'époque, en fait, on a tellement de gens qui viennent pour des émissions que des fois, on programme des émissions sans savoir de quoi il va être question dans cette émission. Donc, il est arrivé parfois, une fois en tout cas, qu'une émission en breton soit faite sur Radio Neptune sans que les programmateurs ne comprennent le breton. Et on a mis les gens de Neptune ont mis quelques mois à se rendre compte que cette émission, il s'agissait d'une émission d'indépendantistes, voilà, pur jus, qui convenait très peu à leurs idéaux à eux. Et voilà, il a fallu attendre qu'ils comprennent pour que les gens qui faisaient cette émission soient expulsés. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Qu'on programme des gens sans savoir ce qu'ils vont raconter. C'est une confiance dans le micro qui est confondante.